avec la machine, on le suit.
Alors ça, disons, brisant un peu avec le discours, comment toi as-tu vu, soit par rapport à ton œuvre, ce sera une question peut-être en deux, ouais. Comment as-tu vu, est-ce qu'il y a eu changement de ton action face au milieu ici, ou ailleurs? Comment le milieu lui-même s'est-il transformé par la période? Tu peux comprendre la question?
Oui, je comprends. Tu comprends, c'est que personnellement, j'ai l'impression qu'un artiste, au fond, c'est un peu comme tu écrivais tout à l'heure, il a une espèce d'équilibre interne, hein, et avant tout, il faut qu'il respecte donc, comment lui il réagit par rapport à des pressions. La société s'organise. Bourdieu, après le refus global, la position où il était, ça devient difficile de lui de s'obstiner à rester ici, tu comprends. Il était vraiment beaucoup trop mis en fonction de bouc émissaire.
Avant que tu continues, veux-tu dire, ça je voudrais préciser, ça ne l'est pas déjà, les influences, dire, qui ont été marquantes sur l'œuvre, tu as parlé beaucoup de Burel. Est-ce que le milieu lui-même a eu de l'influence sur ton œuvre, le milieu d'ici? Ou bien si disons que l'influence s'est faite beaucoup plus au niveau de l'interrogation générale qui se passait dans le milieu de la peinture. Est-ce qu'ici il y a eu une influence? C'est par exemple des trucs, comme tu disais, des événements qu'on a eus ici, etc. Que ce soit, tu sais, c'est ou l'art même qui se fait ici. Est-ce qu'elle a interféré de quelque façon dans l'art d'ici?
Comment je pourrais dire? Je dirais que pour moi, c'est pas tellement une influence du milieu. C'est beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, une espèce d'influence internationale. Tu vois? Que de ce point de vue, quand j'ai perçu donc, que le fait d'exposer à Venise ou l'espèce d'avoir vraiment un contact international, ça pouvait signifier au fond une chose. Tu comprends? Que si tu veux vraiment fonctionner sur le plan international, il faut que tu sois ailleurs qu'avant.
Mais tu es toujours à Montréal.
Oui, mais là, je dis, quand je suis en 78, je suis en 79, 70, je me suis aperçu, je comprends, j'ai eu des offres, exposé à New York, exposé en Italie, tout ça, tu comprends. Mais je sentais très bien que de travailler de Montréal, au fond, c'était un peu ridicule. Si tu veux vraiment te donner à ça, il faut vraiment être à New York.
Mais pourquoi es-tu resté à Montréal?
Parce que, effectivement, je ne trouvais pas que. Je n'ai pas trouvé que. Que faire une recherche, faire vraiment une espèce de un développement sur quelque chose qui t'intéresse, ça peut vraiment se faire en même temps que t'adapter à des situations tout à fait fonctionnelles, en fait, aller vivre où il faut que tu vives, te démerder, tu comprends. C'est évident que, par exemple, les artistes qui nécessairement allaient vivre à Paris, qui considéraient que leur milieu était tellement pauvre, il y a tellement peu d'activité, qu'ils ne pouvaient pas avoir toujours rester où ils étaient.
Considères-tu que le milieu québécois avait suffisamment d'activité?
Pour nous, évidemment, c'est que je considérais tout simplement, c'est qu'à un moment donné, quand ta recherche est vraiment lancée, tu peux travailler n'importe où. C'est pour toi-même, pour ta recherche.
Comment dire, tu ferais de la peinture laboratoire.
C'est ça. Mais comme je dis, le Duc, il peut travailler aussi bien en France qu'il pourrait travailler à Saint-Hilaire ou il pourrait travailler à Vancouver.
Et toi?
Moi, ça serait la même chose. Mais comme je dis, je ne vois pas l'intérêt, tu comprends, d'être à New York pour faire la même peinture, l'avantage que je vais être, tu comprends, d'être à New York, ça va être un avantage commercial, de promotion, etc., tu comprends. Tandis que, comme je dis, tout simplement, c'est sûr que tu es un jeune artiste, c'est sûr que c'est beaucoup mieux pour toi d'être dans un endroit où tu vas pouvoir te faire connaître, etc., tu comprends. Parce que là, finalement, c'est pas tellement ta recherche qui est le plus important pour toi, c'est de te faire reconnaître, faire admettre que tu es un joueur dans ce jeu-là, tu vois. Alors pour moi, de me sacrifier, tu comprends, et d'aller vivre dans un milieu, disons, pas hostile, mais donc plus ou moins indifférent, difficile, si l'avantage n'est que, tu comprends, d'avancer ta carrière, etc. Mais ce n'est pas vraiment un avantage pour ta peinture ou ta recherche. Tu vois.
Mais
alors ça ne m'intéressait pas du tout d'aller ailleurs. Dans ce sens-là, comme tu dis, ce point de vue, vraiment, ça revient dans notre propre milieu. C'est que pour moi, finalement, je n'ai jamais considéré que le milieu était très important pour, disons, comment il le reçoit ou ne reçoit pas.
Mais là, je retournerai bien loin en arrière de 68. disons 54, tu dis qu'en 54, tu avais des conditions suffisantes ici à Montréal pour permettre à n'importe quel artiste, c'est-à-dire à permettre à un artiste qui voudra entreprendre n'importe quelle recherche de pouvoir les faire, alors que mettons 68, 70, 75, on les a pas. Mais comme ta recherche à toi est lancée, tu n'as pas besoin d'un stimulant ou d'un stimuli externe.
Ben, écoute, c'est bien évident que... Quand même en 54, comme pour Borgward, si on prend 53, c'était évident qu'en 53, c'était essentiel d'aller à l'humain. Pour, au moins pour voir, pour prendre conscience de ce qui pouvait se passer. Mm-hmm. Ouais. Alors c'est évident que, moi je considérais que c'est évident qu'il est toujours question pour un artiste, finalement, d'aller chercher son information. Mais une fois qu'il a vraiment formulé sa démarche, une fois qu'il est question, j'ai vraiment compris ce qu'il y a à faire, mais là, c'est de mettre en relation sa démarche et sa vie intérieure, sa disponibilité, on peut dire. Pour moi, je vois ça comme ça, je vois une œuvre d'art comme étant une espèce d'une intensification, une espèce de dynamique vitale. C'est sûr que cette dynamique vitale, elle est intéressante que dans la mesure où tu poses des hypothèses valables.
Mais il n'y a pas une notion, le mot sont peut-être dit, il n'y a peut-être pas une notion de paresseux, dans le sens qu'en restant à Montréal, tu évites les interrogations qui seraient peut-être brutales venant du milieu. Que Montréal est finalement pour toi un milieu conquis, c'est-à-dire conquis, je ne veux pas dire, mais un milieu où tu peux faire à peu près n'importe quoi, où tu es accepté. Et qu'à ce moment-là, c'est là que je reviens à l'idée. Tu travailles vraiment en laboratoire. Peu importe ce que. Est-ce que le milieu a une influence sur toi, toi?
Oui, justement. Comme je te dis, moi, personnellement, je crois que si un artiste a vraiment confiance dans les hypothèses qu'il travaille, le milieu a son importance.
Autrement dit, il n'y a pas d'influence. Peu importe ce que le milieu fasse, il n'y a pas d'influence. Autrement dit, la seule influence que tu admettrais sur mes cours, sur mon frère à la banque, c'est que tu aurais eu comme influence Buren comme influence indirecte.
C'est pas une influence indirecte.
Pas une influence.
C'est pas une influence d'aucune façon. C'était simplement un constat, tu comprends, que la peinture est arrivée à un plan, tu comprends, où historiquement, on mettait en question, tu comprends, tout ça fait cette forme de langage. Exactement comme j'ai dit tout à l'heure, je pourrais même te montrer un texte de Mondrian ici, un écrit de Mondrian, où il dit vraiment la même chose en 1926. Parce que pour lui, en 1926, il s'était aperçu qu'il y avait eu comme une espèce de machination dans le monde de l'art pour ramener l'art à des propositions figuratives. Mm-hmm. Tu comprends? C'est sûr qu'en 1926, c'était à peu près la fin du constructivisme, ce qui se passait en Russie, etc. Tu vois? Et c'était commencement vraiment de l'apogée à la fois du surréalisme et à la fois d'une espèce de un retour. Matisse peint les odalisques et tout ça, c'était un retour à une espèce à une peinture, tu sais, veux dire, plus acceptable, et évidemment, qui se revient à une espèce de mythologie, en fait, de figuration. Alors évidemment, cette figuration a deux volets, en fait, l'exploration surréaliste, l'exploration strictement classisante, on peut dire. Alors, c'est évident, comme je disais tout à l'heure, que il faut bien comprendre, c'est que je ne faisais que de reconnaître. Dans les propositions comme celle de Buren. Hein? Et donc, comme je disais en même temps, il y a aussi l'art process art qui était encore une forme de dire, mais au lieu de faire de la sculpture, c'est un peu plus grand la sculpture, en fait, d'un art qui s'adresse à des matériaux en général, et tout ça, on va faire des espèces de. En fait, des systèmes, comprends, qui vont nous amener à dire que les systèmes. Écologique, etc., en général, tu comprends, des grandes, en fait, la sociologie, de même, des points de vue des sciences humaines, sont une forme d'art, c'est une forme de manipulation du système, tu vois. Alors, on désinvestit, sur la notion d'objet symbolique, où on a toujours imaginé qu'il était une question d'expressivité, c'est à travers l'objet symbolique qu'il y avait un travail artistique, une communication artistique. Donc, ce que je dis, c'est que c'est finalement, comme je le dis, là, actuellement, aujourd'hui, on en revient exactement à la proposition, il y a à peu près 2 ans, à peu près, hein? Bon, c'est ce retour à la peinture, comprends? Et c'est exactement la même chose qui est arrivée, comme je disais tout à l'heure, en 26, tu vois, où, d'une part, tu vois, on a toutes les propositions classisantes, on peut dire académiques, comprends? Et on a aussi certaines recherches,
Ça, tu ne parles pas seulement du milieu ici.
Non, non,
là, tu parles
en général, c'est ça. Là, on a aussi certaines recherches, tu sais, qui sont plus vitales, tu comprends? Même à l'intérieur de la peinture, où on n'a pas seulement la figuration, mais on a tout. En fait, on dit tout simplement qu'un retour des choses, tu vois. On revient à reconnaître, comme ça m'est arrivé justement avec Mondrian lui-même à New York, où autant il écrit son texte en 26, il constate qu'il va être mis en veilleuse, tu comprends l'idée? Et bien en 44, à sa mort, tu comprends, il est reconnu à New York comme étant un très grand artiste expressif. Tu comprends? Un artiste très vivant, très engagé, si on peut dire, tu comprends? Et il est presque une expression abstraite, tu vois, ça fait plaisir.
Penses-tu qu'il y a une similarité entre la situation actuelle et celle de Mondrian, le 26? Présentement?
Oui, c'est ce que je dis, effectivement. C'est le contraire. Je dis, ben, c'est pas vraiment le contraire. Mais je dis, c'est comme je dis, là, on en revient encore une fois, tu vois, l'idée, à une espèce de nivelage de toutes les propositions. Tu vois? Comme je dis, après une phase critique, tu comprends? Vous pouvez comprendre, je disais en 26, il y a une phase qui est à la fois critique, dans le sens du surréalisme et des relents du dadaïsme, mais c'est surtout le surréalisme, mais il y a aussi une phase, on pourrait dire, essentiellement réactionnaire, qui est le retour au classicisme en l'art.
On a ça présentement à Montréal.
On a ça dans l'art actuel. On a ça dans l'art actuel.
Dans tout l'art. Ça,
la peinture italienne, la peinture allemande, la peinture française, c'est essentiellement cette comme je dis. Alors, comme je dis, d'une part, on a comme une espèce de un élan un peu comparable au surréalisme, un élan comme genre explorateur. Il y a vraiment des artistes qui recommencent, qui prennent confiance d'explorer le langage pictural, la sculpture, etc. Puis à côté, maintenant, on a vu qu'on a revalorisé l'expressivité de tous ceux qui font n'importe quoi, qui sont revalorisés automatiquement.
Est-ce que le milieu québécois est sous cette influence?
Ah, essentiellement.
Mais
la preuve de ça, c'est les galeries qui roulent continuellement. C'est une galerie là qui roule.
Lesquelles?
L'espèce de galerie Saint-Denis, il y a des galeries des quartiers maintenant qui roulent. Ils sont pas des galeries parallèles, en fait, qui étaient au service d'un art, en fait, qui sont un art d'exploration, un art vraiment autre. Et maintenant, sont recyclés. Les galeries parallèles se recyclent dans la peinture et la sculpture.
Tu parles d'Optica, d'Articule,
On en revient justement à cette revalorisation supposément du geste créateur, du geste communicateur. On revient à avoir une espèce de communication. L'artiste comme communicateur et qu'on communique à son travail.
Tu trouves ça régressif, cette
activité? C'est pas régressif, c'est tout simplement, c'est comme disait Vico, la civilisation bouge toujours par cycle de répétition. Alors, c'est des répétitions continuelles.
Et donc, ton attitude face à ça, c'est de laisser...
L'attitude face à ça, c'est tout simplement, comme je dis, c'est un certain point de vue. Il est bien évident que, disons, si tu pars, tu s'en vas à New York en 70, tu vas vivre les vaches maigres, tu comprends? À moins de faire comme Les Levine ou d'autres personnes de même qui vont te joindre à cette affaire-là, là, c'est parfait, tu comprends l'idée? Mais si tu t'en vas à New York, tu fais pas beaucoup plus, tu sais que... Par exemple, un gars comme Nolan, à un moment donné, est tombé vraiment dans désuétude, de 73-74, tu comprends, et puis il a tombé, etc., tu vois. Mais là, ça remonte parce que toute la valorisation de la peinture remonte, tu vois. Mm-hmm. Alors, c'est sûr qui, par exemple, même Stella, quoi, tu comprends, son questionnement des années 70, tu vois. Lui-même, tu remis en question aussi tous les systèmes qui l'avaient rendu célèbre, tu comprends, pour au fond, tu comprends, de certains points de vue, comme tu peux voir, c'était là dans certains sens, on pourrait presque dire, c'est qu'il préparait les années actuelles. Enfin, parce qu'au fond, en espèce de situation de parler de ce recyclant, tu vois, lui-même, tu vois, et au fond, il a préparé cette espèce de ce renouveau en fait, de peinture, gadget, etc. On peut voir.
Autrement dit, en 82, on est revenu à 1968. On prend les cycles.
Absolument, absolument.
C'est une question de cycle.
Absolument. Alors, c'est pour ça, par exemple, aujourd'hui, tu vas avoir dans les galeries, tu vas avoir un retour à peinture géométrique, en soi. Tu vas avoir un retour à toutes sortes de figuration. Tu vas avoir un retour au tachisme, tu vas avoir un retour à cette forme d'expressionnisme abstrait. Tu vas avoir un retour à tout.
Donc, 82 est une année beaucoup plus
C'est une analyse.
Morte, c'est une année neutre, un peu.
C'est neutre, mais comme je te dis, en même temps, tu es comme des gens, tu comprends, c'est une nouvelle génération. Ils n'ont pas été conscients de ça, là. Ils n'ont pas été conscients de l'expressionnisme abstrait. T'sais, pour eux autres, c'est très loin dans l'histoire.
C'est même assez dans l'histoire, là,
certainement. C'est ça, comme je te dis, tu vois. Alors, ils s'imaginent qu'ils peuvent faire ça, mais que ce n'est pas nécessairement en relation avec ça. C'est en relation avec des choses plus présentes, plus pas tellement loin, tout ça. Ça fait partie de, tout simplement, que, comme je te disais tout à l'heure, une espèce de, un éventail des possibilités de l'écriture plastique. Ah, ça fait partie d'une espèce de classicisme, à certains points de vue, mais évidemment très, très dévalorisé.
Et lui, tu dis que finalement, tout ce qui a été, ce qu'on a appelé le process art, le land art, l'art conceptuel, finalement, est passé sous silence.
Bien, il est passé oublié, sous silence, éliminé. Tu comprends? Il est passé sous silence, mais devient justement le fait, tu comprends? Comme cause peut-être, tu comprends? Peut-être quelques-uns, tu comprends l'idée, qui vont peut-être continuer à faire ça. Comme moi, j'ai continué à faire de la peinture pendant les années 70, comme d'autres, comme Charles Gagnon, fait de la peinture pendant les années 70, tu comprends? Donc vraiment, là, eux, c'est leur question, tu comprends l'idée, d'être où on était mis, tu vois? Où ils ont plus, ils n'ont plus vraiment la critique pour eux, ils ont plus vraiment la, ils ne sont plus, ils sont plus vraiment visés par le moment de l'histoire. Si on prend, alors je parlais de l'intervalle de la couleur, il y a aussi un intervalle des propositions artistiques, tu vois. Mm-hmm. Alors c'est pour ça que, comme je dis, c'est que finalement, ce que j'essaie de dire, tu comprends, c'est que, en principe, tu vois, on va faire ça comme à Toronto, tu vois. C'est pas l'argent, c'est pas le marché, tu comprends, qui va être déterminant. Parce qu'à Toronto, comme n'importe quoi, c'est que finalement, les gens, s'ils ont l'argent, ils veulent l'investir dans ce qui se passe dans le monde. Tu vois? De là, qu'à Toronto, il faut que tu leur donnes ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc, ça pourrait être Toronto, Chicago, Détroit, Buffalo, c'est la même chose.
C'est
une vitrine, tu comprends? Alors, comme je l'ai dit, c'est que finalement, c'est que les artistes de Toronto, même si le milieu serait peut-être plus supportable, tu comprends? Ils ne réussissent pas mieux s'ils ne sont pas capables d'apporter des hypothèses. Qui peuvent se confronter aux hypothèses mondiales. Ouais. Alors, c'est évident que ça, c'est de plus en plus vrai. Toujours plus vrai. L'information circule de toujours de plus en plus vite. Ouais. Alors, c'est évident qu'aujourd'hui, les artistes qui réussissent de toute façon à être intéressants, importants pour la critique, pour la conscience, disons, de valorisation, c'est ceux qui sont capables de saisir la montée d'un mouvement, hein, et d'apporter des hypothèses qui viennent expliciter certains questionnements.
Mais Montréal étant un peu à la périphérie, je pense qu'on peut dire, de l'art occidental, du moins sur une, à la bande, plus ou moins, qu'est-ce que Montréal, lui, pendant ces 14 années-là, a montré de neuf, ou plutôt en comment il a changé? Est-ce qu'il y a eu des personnes, des individus artistes qui ont changé quelque chose? Est-ce qu'il y a des individus qui ont signifié quelque chose de neuf? Ou bien tout simplement, sont simplement ajouté une pile d'anonymat? Parce qu'on voit toujours de la façon dont on parle en disant que, bon, 68, on avait déjà tout, on avait le questionnement, on avait ça, mais il y a quand même 14 ans de production depuis 68. Et qu'est-ce qui s'est produit à Montréal?
Il est bien évident que, comme on disait tout à l'heure, c'est sûr que si on pose que l'art est plus orienté sur l'objet, comprends? Donc l'art est plus orienté sur le contenu, il est plus orienté dans une espèce de ce genre d'efficacité.
Es-tu d'accord avec cette
ben, c'est ça que je pense que c'est ce qui était posé dans cette espèce de, tu comprends, de généralisation de la révolution culturelle chinoise, cette espèce de revalorisation d'une espèce d'anonymat. Donc, mon joke de 70, c'est de l'art permutationnel.
Mm-hmm.
Donc, ce que je dis dans ce contexte-là, c'est évident que ça a été une époque, hein, où les gens ont vécu un peu un anonymat. C'est très difficile de faire sortir quelqu'un là-dedans.
On est-il sorti?
Bien, comme tu as vu, c'est comme on peut dire, qu'est-ce qui est sorti, c'est des gens qui ont, dans une certaine mesure, marché plus ou moins à contre-courant.
Ce serait qui, ces gens-là?
Ben, dans ces gens-là, ben, tu comprends, ça serait des gens comme, si on prend par exemple, si on prend comme une point de repère Québec 75,
mm-hmm.
tu vois, et comme tu vois là-dedans, c'est qu'il y avait de certains jeunes, tu vois, et qui ont commencé justement à, progressivement, dès Québec 75, ça veut dire qu'il avait commencé à faire en 72, 73, à une certaine façon de se décaler par rapport à un mouvement dominant. Parce que comme tu sais, comme moi, que Québec 75, c'était pas vraiment, disons, quelque chose de, comment je dirais ça, essentiellement dans les préoccupations mondiales. C'était beaucoup plus local, ça pourrait dire. C'était des créateurs, et puis avec tout un éventail de qu'est-ce qu'on, un constat de qu'est-ce qui va se produire au Québec. Alors, comme je te dis, là, déjà, comme des gens Plotek, Harry Newton, c'est qu'on pourrait retenir, c'est le Serge Lusignan, je pense, à Québec 75. Ah, tu vois, alors, des gens comme ça, tu vois l'idée. Donc, déjà, dans cette période-là, il se commençait déjà à s'orienter différemment, un peu par rapport à Serge Lusignan, d'Harry ou de Plotin, tu comprends? Il commençait déjà à s'orienter vers un art d'expression. Et c'est évident que sur la lancée de ça, ben, ils ont comme abouti dans les années 80, 77, 78, 80, à une forme de langage et d'écriture. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est la même chose pour les gens pour l'art conceptuel, Kossuth ou d'autres, je ne sais pas, Conchi, je ne sais pas les nommer, comme ceux qui sont vraiment, qui sont capables de passer au travers et de démontrer que ça, ce n'est pas rien qu'un fade pour eux. Il y avait vraiment un investissement épistémologique, tu comprends, dans leur recherche. Ils vont être encore importants, très importants, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ici, tu vois. Alors, c'est évident que, comme on dit, d'un certain point de vue, c'est sûr que des artistes qui, de toute façon, doivent être récupérés, tu comprends, par les fans du moment, ben, c'est là qu'on différencie les enfants des adultes, tu vois. C'est souvent à s'habiller comme tout le monde, à faire comme tout le monde. Donc, c'est le doc, qu'est-ce qu'il fait, il ne comprend pas vraiment, il n'est pas vraiment au fait de qu'est-ce qu'il fait. Ben, il va être bien content qu'il va sentir que maintenant, les préoccupations sont déplacées, et puis il va voir un peu qu'est-ce qui se fait ici, qu'est-ce qui se fait là. C'est évident que nous, d'abord, comme ça, je peux nommer 10 ou 15 étudiants qui s'imaginent qu'ils font du néo-expressionnisme. Hein? Mais c'est toujours ceux qui ont toujours fait des étudiants du néo-expressionnisme. Tu comprends l'idée? Mais là, ils font peut-être un peu plus...
Touché,
un peu plus formalisé, comme on pourrait dire, mais en réalité, c'est pas plus qu'à qu'il fasse. Si t'as 20 ans, t'es pas expressionniste, que c'est que tu vas être.
Et selon toi, considères-tu dans le milieu ici, et si tu réponds oui, exemple, que tu as, que ta peinture a une suite dans le milieu, à l'extérieur de toi?
Ben, ça,
depuis 68.
C'est évident.
Si on élimine, ben c'est pas sûr. Pas éliminer un exemple évident comme Comtois, mais oui, quel serait,
je pense que tu,
quelle est la conséquence?
Par exemple, non mais tu sais, certainement par là...
Je veux pas te créer de disciple, mais quel est le résultat de ton action dans le milieu ici? Est-il théorique ou est-il aussi au niveau de la création?
Ça, si on prend l'idée, c'est, si on pourrait toujours dire, d'un certain point de vue, que cela existe comme effet de masse. Je veux dire par là, je veux dire qu'on ne peut pas déterminer mon action. Je veux dire, j'étais pas tout seul. Si j'avais été tout seul, on aurait tout un autre.
Qui était avec toi, là?
Ben, nécessairement, plus unique, bouger, particulièrement.
Alors,
c'est évident que leur travail, pour la plupart des gens, est assimilé à mon travail. C'est la même chose, en gros, Donc, c'est une préoccupation sur la couleur, une préoccupation sur une certaine notion de forme, une certaine notion que, qu'il conçoit comme étant une notion formaliste.
Mais comment expliques-tu, par exemple, qu'il y a eu un bris entre toi, Tuzignan et Gaucher, tout ça?
Une bonne question!
Une dure question!
Bien ça, franchement, tu vois, c'est... Pour moi, c'est tout simplement, comme je disais un peu comme je disais tout à l'heure, au point de vue de la couleur dans un tableau. C'est tout simplement un problème d'hiérarchisation. C'est que c'est simplement, c'est comme je te dis, comme moi je peux le dire, que je ne peux pas prétendre déterminer mon influence, parce que je suis pas assez schizophrène pour m'imaginer que je suis tout seul dans le milieu, tu vois. Alors, eux, c'est un peu la même chose, tu vois. Dans la mesure ou peut-être ils ont une certaine insécurité, que peut-être que c'est mon influence qui est plus forte que leur influence. Comprends? Ils veulent comme de se dégager de mon influence. Voilà. Et de s'imaginer qu'ils sont tout à fait différents de moi. Comprends? Et que, moi, je ne dis pas, effectivement, tu vois, qu'ils n'ont pas eu d'influence, ils en ont eu, comprends, en fonction de l'importance de la manifestation, comprends, et je suis convaincu qu'ils ont touché énormément d'individus, mais peut-être, effectivement, dans une notion de renforcement, peut-être renforcer certaines choses que j'avais faites. Si je ne les avais pas faites, peut-être que ça n'aurait pas eu le même effet, mais fondamentalement, ça revient au même.
Ce que tu décris là, c'est quasiment la relation père-fils ou père-enfant.
C'est pas père-fils, non. C'est tout simplement que, comme je vous dis, c'est vraiment des gens qui en gros, disons, ont les mêmes convictions. Tu comprends? Mais il est bien évident qu'à l'intérieur de ces convictions-là, avec le temps, bien, c'est sûr qu'il se fait des clivages. Tu comprends? Alors, c'est bien évident que, disons, que Gaucher, sa recherche à cette tête était beaucoup plus portée dans son exposition du Musée d'art contemporain sur une notion de dessin, une notion presque d'un retour à certaines connotations symboliques. Et c'est sûr que Toussignan, ben, dans son exposition du Musée des beaux-arts, ben, c'est sûr que c'est vers l'installation, il semble de plus en plus s'orienter vers l'installation. Mais dans ce sens-là, on pourrait dire qu'il y a un démarquage par rapport à ma propre recherche. Mais c'est évident que d'exposer...
Pas par rapport à leur propre recherche, par rapport à ta propre recherche.
Ben, je veux dire, ça détermine des différences, comprends? Je veux dire, on se différencie de plus en plus les uns des autres.
Est-ce que l'identificateur n'était pas pour toi aussi une façon de se différencier?
Pas du tout. C'est ça, je t'ai dit, je ne peux pas dire que Toussignan, en fait, c'est son installation du Musée des beaux-arts pour se différencier, comprends?
Non, c'est un tableau de 54.
Ça fait partie de sa logique, tu comprends? Ça faisait partie de sa logique. C'est une logique qui pouvait nécessairement, qui a toujours été intéressée à déborder le plan du tableau, le champ du tableau. Enfin, c'est simplement c'est l'histoire qui va nous dire si vraiment il y a une bifurcation dans sa recherche. Mais en fait, continuer. Mais comme je te veux dire, c'est qu'il y a, tout ce que je veux dire aussi, le problème de hiérarchisation, c'est que peut-être qu'il peut exister, comprends, chez ces individus-là, une espèce de notion de père et fils, peut-être. Comprends? D'essayer de déterminer quelle est leur place par rapport à ma place.
S'ils sont le père ou s'ils sont le fils, quoi.
Moi, c'est ça. Mais je suis le fils.
Toi, tu as résolu la question.
À déterminer. Mais peut-être qu'on pourrait te poser la question. Enfin, je veux dire que ça pose la question. Mais comme je te dis, c'est qu'il est évident que s'ils se posent la question d'influence, s'ils veulent la ramener de leur côté, moi je ne le fais pas. Je ne prétends pas que j'ai eu plus d'influence que d'autres. Tu comprends? Et comme je te dis, je ne prétends pas nécessairement être instigateur, ou même si je l'avais été. Tu comprends? C'est évident que si tu fais ton affaire dans ton coin, tu vas avoir beaucoup moins de retentissement s'il y a d'autres personnes qui prennent des hypothèses semblables aux tiennes et qui les posent aussi. Ça fait un effet d'une masse critique. Alors là, c'est sûr que le retentissement se fait pour la plupart des gens vis-à-vis d'une certaine production. Ils ne font pas tellement de différence entre Toussignan et Boucher, tu vois. Et est-ce que... une certaine production, là, je parle de production, justement, un peu long, je change sur des 10, 52.
Okay. Mais est-ce que présentement, tu voudrais dire que, disons, ceux qui étaient peut-être, qui avaient des affinités, mettons, en 68, sont devenus carrément autonomes, c'est-à-dire...
Sûrement, c'est ce que je dis.
Comparé à 68, là, il n'y a plus de groupe comme tel.
On est très démarqués des uns des autres, ça, je trouve, c'est évident, tu comprends. Et que je crois, je conçois que pour eux, qu'ils veulent justement accentuer cette démarcation, et d'avoir respecté un certain nombre de distances, tu vois, en posant certains gestes, des gestes qui sont hostiles, c'est une interprétation.
Parce que quel est ton rôle maintenant, à savoir, tu continues à peindre, mais tu continues aussi à parler, est-ce que tu l'as toujours fait? Quel rôle te donnes-tu un peu à l'extérieur de ta production picturale, dans le milieu, à part l'enseignement, il y en a une facette, mais à part l'enseignement, tu vois?
Mais justement, je pense que c'est ce rôle-là que j'ai commencé à poser nécessairement à La Rochelle, qui était un peu à l'origine de cette... de Bisbille, ouais. C'est que justement de déterminer, d'amener les gens à saisir davantage la différence entre les stratégies formelles, hein, et justement les notions de pulsion, les notions de besoin et les notions de jugement. Alors, je trouve que personnellement, donc la chose qui manque le plus dans le milieu, c'est cette espèce de capacité de jugement. Je trouve que, disons, non pas seulement la capacité de jugement, mais la sumation de la notion de jugement. Comprends? Je veux dire que je retrouve beaucoup des jeunes artistes, comprends, d'avoir peur de dire ce qu'ils pensent d'une façon critique devant des propositions qui sont valables sur le plan formel.
Tu parles à l'intérieur de leurs propres œuvres ou à l'intérieur?
Non, à l'époque du milieu.
À l'intérieur du milieu.
De l'échange. Okay. De valorisation de la fonction critique, tu comprends? Alors, je veux dire tout simplement, c'est que, disons, de par la position que je tiens, je crois que les artistes aujourd'hui, on ne devrait pas attendre les critiques pour nous dire quoi penser et quoi définir comme valeur, tu comprends? Parce que souvent, les critiques ne veulent pas le faire.
Là, je te poserais tout de suite une question. Est-ce qu'il y a une critique à Montréal?
Bien, c'est ça que je te dis, c'est ça justement les critiques, il y en a tellement peu, tu comprends? Alors, il y a tellement peu de motivation, tu comprends? Il y a tellement peu de gens qui veulent prendre des risques. Alors, disons, c'est des points de vue, peut-être que je suis un peu comme au plan où je supposais Bernard Newman, quand il a fait sa communication à Paris sur la mort de Baudelaire, tu comprends? Pour une critique engagée, tu comprends? Alors, disons, je pose effectivement, tu vois, que les artistes devraient s'engager davantage, mais qui ne peuvent s'engager que s'ils peuvent faire cette espèce de distinction que j'appelle les algorithmes de production, une stratégie de production, toujours élaborer une certaine synthèse formelle pour produire quelque chose, hein, qui est tout à fait soutenu par une notion de position d'histoire. Mais à côté de ça, on prend d'être capable d'élaborer une espèce de vérification d'une adéquation, donc vraiment un trajet questionnement existentiel de l'efficacité de certaines propositions. Tu vois. Alors, par exemple, on va avoir une exposition importante d'un artiste, mais les gens vont dire, il y a telle proposition et telle proposition, mais ils ne sont pas capables de prendre position vraiment à comment ça va les engager, existentiellement, qu'est-ce que ça leur apporte, quel est vraiment un certain critère de jugement.
Dirais-tu qu'en 68, les gens étaient beaucoup plus critiques?
Je dirais peut-être justement qu'en 68, peut-être qu'il y avait peut-être un peu plus d'esprit de corps. Tu sais. Il y avait plus de gens qui se parlaient. Il y avait peut-être plus de gens qui se rencontraient. Il y avait peut-être un certain nombre.
Il y avait un milieu, quoi.
C'était un milieu là beaucoup plus riche.
Il n'y a plus de milieu, présentement, ou quoi?
Bien, comme je dis, le milieu, comme je disais tout à l'heure, par espèce d'évolution. Tout à l'heure, de parler des galeries parallèles et toutes ces choses-là, mais toute cette espèce de mise en question, comme tout à l'heure, de l'œuvre d'art, tu sais, comme objet expressif, comme processus expressif. Donc, on a une espèce de nivellement. Tout le monde qui prenait pour des artistes, n'importe qui faisait n'importe quoi.
Je parle de 68, là.
Je parle de la continuité de 68,
jusqu'à aujourd'hui.
76, 77, 78. On peut dire que ça a commencé un petit peu à changer, là, mais évidemment, là, il y a un tas de gens qui se sont. Tu sais, comme moi, le vidéo. Le genre, quelqu'un qui pensait que faisait une vidéo, t'es un artiste. Mm-hmm. Et puis là, qui avait festé dans la rue, t'es un artiste. Et tout le monde était des artistes, tu comprends? Alors, on a parlé de Marcel Ferron, les artistes, qui étaient donc, c'était des artistes, tu comprends? Pour ce qu'il y avait d'artistes, il y avait quelle était l'œuvre, qu'il avait produit, c'était tous des artistes qui allaient manifester contre l'archidiacre, contre le musée. Mm-hmm. Tu comprends, cette notion était tellement charriée, mais justement, c'est que être un artiste, ça ne voulait plus rien dire. Ah, c'est sûr que si on en arrive à une période, peut-être un certain nombre d'années, à reprendre conscience de la validité de l'œuvre d'art, comme discours critique sur une société, comme engagement existentiel, ben, il y a comme une espèce d'espoir, il y a une espèce de réinvestissement. Alors, c'est comme dire, on parlait dans le Québec 75, justement, des individus qui ont commencé en Québec, autour de Québec 75 à se réinvestir, et à eux à y croire. Il y avait ceux qui y croyaient, ceux qui n'y croyaient pas. Mm-hmm. C'est un peu de cynisme, finalement. Et comme on dit, c'est toujours ça qui arrive, c'est que quand arrive cette espèce de désinvestissement comprends, de l'art comme moyen de transcendance, d'une certaine religiosité, ben c'est sûr, ça fait toujours très utile au pouvoir de délayer tout le monde dans la même chose. Alors, c'est évident, on a une grande masse de faiseux, mais finalement, il n'y a personne là-dedans qui vient ressortir, qui détermine son efficacité, qui remplit justement un rôle culturel important. Alors, comme je te dis, c'est que. Alors, personnellement, je le dis, c'est que si je vois un rôle à jouer, tu vois, c'est peut-être un rôle, justement, qui découle peut-être de mon investissement dans le Marcus Program, comme on dit, c'est de déterminer, justement, une espèce de position critique. Alors, tu as vu un peu la discussion que j'ai eue avec mon grain. C'est une façon, tu sais, de dire, je recherche, on pourrait dire, ce genre de dialogue, tu comprends?
Ou de provocation.
Oui, mais le dialogue, c'est un peu de provocation. Mais évidemment, c'est sûr que ça se fait nécessairement avec des artistes d'une autre génération. Hein? Parce qu'à l'intérieur de notre génération, ben, il y a des clivages qui se sont établis. Et puis, évidemment, ben, on va vraiment avoir
les dialogues sont rompus.
On va vraiment avoir des discussions avec le public.
Tu regardes 68-82, quels sont les événements qui marquent la période?
68-82.
Ah, 68-82. Que ce soit des expositions, des œuvres, des événements, je crois. Qui marque ou qui délimite la période, qui délimite le débat de l'époque. Je ne sais pas,
à la place. Je dirais, par exemple, c'est 68.
Mm-hmm. 68, on a déjà parlé. Non, la part extérieure, c'est-à-dire la critique, de l'influence européenne.
Des années 70,
Parce que je considère les années 70, au moins les 3-4 premières années, moi, je les trouve assez vides.
Oui, mais moi aussi, j'essaie de voir que ça peut être plus
retroussé. Tu as parlé jusqu'ici un peu de Québec 75, j'ai fait un exemple.
Oui, mais je regarde avant ça, que ce soit ce qu'on peut retenir comme date, on ne voit pas grand-chose. On peut retenir comme date avant ça.
Retiens-tu, on a parlé aussi peut-être un peu de l'affaire Coward, Bardot, tu sais, des parallèles.
Oui,
mais pas vraiment.
Il y a eu une espèce d'effervescence à un moment donné. En fait, le
conseil. Mais est-ce que pour toi, l'ouverture, par exemple, c'est en 72, de 71-72, l'ouverture de véhicules?
Ben, c'est évident que c'est évident que.
Ou est-ce que c'est un geste? Parce que je veux dire, il faut faire attention. Est-ce que c'est un geste social? Ça n'a pas d'intérêt.
Personnellement, tu vois l'idée. Je dirais que véhicule, enfin, devient quelque chose d'important dans la mesure où, à Montréal, quand cette ville-là s'est ouverte, alors, ça représentait beaucoup. Premièrement, la mise en place d'un appareil anglophone dans le milieu.
Le premier.
Donc une conscientisation anglophone dans le milieu. Deuxièmement, ça représentait aussi qu'il y avait une telle manque de leadership, en fait, de force de travail dans les deux musées, que c'était presque l'homme qui ne se passait, une espèce d'actualisation de qu'est-ce que pouvait représenter une activité artistique, même si on peut dire justement qu'on ne peut pas être d'accord avec le contenu. Le contenu de ce travail artistique, mais c'est évident, ça venait remplir un espèce de vacuum. Alors, c'est sûr que, si on, comme tu dis, à partir de ça, il y a eu un peu, comme on pourrait dire, la réponse à véhicule, c'était l'investissement dans Québec 75. Qui était une espèce un cumulement de l'orientation de la sociologie de l'art de l'Université du Québec. Où les sciences humaines se mettent à s'intéresser de plus près à l'art comme manifestation culturelle. Alors c'est évident que dans ce sens-là, on voit très bien deux modes de connaissance viennent se rencontrer. Alors, c'était évident que c'était comme un moment de conscienciation de la rencontre entre la pratique et une espèce d'éthique sociale.
Et depuis là?
Et depuis là, comme je te dis, à partir de ça, donc on peut faire des repères, 75, Québec 75, véhicule.
Mm-hmm.
Après ça, je dirais, effectivement, dans la position où je me trouve, que c'est sûr que c'était un peu l'ouverture du mouvement contemporain. Quand on était là, une espèce d'ouverture tout de même à une série d'expositions, si on prend. On sait le conceptuel américain dans la grande machine avec la cloche qui sonne.
Oppenheim.
Oppenheim, tu comprends? Donc, on pourra dire, d'une certaine façon, de l'exposition Oppenheim, Saul Lewitt, évidemment, calendrier, tu comprends? Venait un peu déterminer, tu comprends, la possibilité de notre milieu de s'ouvrir un peu à, enfin, de cesser d'être complètement à la remorque des autres centres, pour voir un peu, prendre contact réel avec certains courants. T'sais. Mais c'est évident que, disons, ça a été assez. Ça n'a pas, été aussi loin que ça aurait pu. Tout ça. Et qu'à partir de ça, comme je pratique comme date, on en vient presque à la controverse qui a amené la commission de l'hôpital. C'est comme une grosse date, finalement.
Il y a une chose que tu n'as pas parlé, la Banque de Vredard.
Oui.
C'est en 72, ça.
La Banque d'œuvre d'art, je crois que c'est un phénomène, mais ça, je pense que c'est un phénomène...
économique?
Ça, c'est un phénomène économique, justement, mais c'est pas un phénomène, justement, de valorisation. Et tu comprends ce que je veux dire? C'est que moi, personnellement, ce que je déplore au Canada, évidemment, c'est ce manque d'intérêt pour la diffusion dans le langue canadien. Et ça, c'est vrai partout. Alors, c'est évident que la Banque d'œuvre d'art a fait un travail. On est bien d'accord là-dessus. Mais comme je dis, ça ne fait que de faire ronronner la machine. Ça n'apporte aucune valorisation créatrice. Même pas tellement sorti d'exposition à partir de ça. C'est même thématiquement valable. La sculpture dans la collection d'Arvin.
Comment ils s'en ont tiré en foutant rien? Hein.
C'est ça. Alors c'est sûr que c'est vraiment du... artist welfare, tu comprends? Et c'est sûr que dans ce contexte-là, si on peut dire d'une certaine façon que le Conseil des arts a passé pas mal à côté, tu comprends? D'être quelque chose qui, disons, de moins lourd.
Parce que l'aspect des était drôlement important. Quoi.
C'est ça. De moins plus lourd plus pour promouvoir.
Tu es d'accord pour dire que l'argent, il n'est plus.
Ah bien, depuis le départ de Circas,
finalement. Le Moine même? Suzanne Rivard Le Moine?
Ben, elle a produit les Hardbanks, tu comprends? C'était un gros coup pour elle, évidemment. On lui doit ça. Mais comme je te dis, c'est que c'est évident que Silcox le monde,
peut-être. Ça, on fait en fait un tour d'exposition. Qu'est-ce que tu penses qui est devenu la Galerie nationale durant présentement, là, je pense. C'est presque le degré zéro de la galerie, là.
Ah ben là. Non, c'est évident que dès que les biennales ont fini, ça la Galerie nationale. Son intervention, sur le plan national. Et c'est évident que se contenter de Sao Paulo, de Venise, évidemment, ils ont fait Pompidou avec Michael Smith. Mais c'est sûr que la Galerie nationale, c'est la grande déception.
Le grand flop de l'époque.
Oui, évident. Non, c'est sûr que. Mais il faut bien comprendre aussi une chose, j'en ai parlé un peu l'autre soir, c'est sûr que le problème nationaliste a déterminé une certaine difficulté de manœuvre sur le plan national, mais ça, on peut peut-être dire ça, t'apprends? Mais c'est évident quand on voit qu'il y a manque de personnes, manque de ressources à la Galerie nationale, même au Conseil des arts, t'apprends? Alors on ne peut pas vraiment dire. Est-ce que c'est un facteur aussi déterminant? C'est évident que d'un certain point de vue, en fait, c'est moi ce que je disais l'autre soir, c'est évident que, pour reprendre la proposition de Rio, les artistes se sont désinvestis sur le plan critique à partir de la fin du mouvement nationaliste.
À partir du 76.
Ouais. Alors c'est évident que dans ce sens-là, disons, en même temps, la fonction de l'art, comme moyen de valorisation nationale, a été mis en veilleuse. Alors, on aimait mieux se poser, justement comme dans l'idéologie de Valtoncœur, qu'on n'a pas de culture, qu'on n'a pas une culture réellement autonome, qui qui se détermine par l'identité nationale.
Mais à ce moment-là, tu vas voir un propos différent. Tu viens, c'est l'été dernier, tu disais, nous n'avons pas de culture au Québec.
Bien, il faut bien s'entendre. On ne peut pas ne pas avoir de culture. Autrement dit, on n'a pas de culture reconnue qui va développer. Alors, c'est évident que le français d'essayer de déterminer le degré de dépendance de notre culture, mais ça, c'est la fonction critique de chaque groupe humain à faire. Et c'est évident que c'est toujours très difficile de déterminer ça, le degré de spécificité, d'originalité d'une culture humaine. Comme vous êtes à l'heure, Breton est à New York, Mangui, Marseille, les Mondrians, tu comprends, il y a d'autres choses, tu comprends, qui vivent à New York dans les années 40, les maçons, tu comprends. Ben, de plus en plus, la critique américaine, après avoir crié, la suprématie de l'art américain et la trouvaille du siècle, se sont aperçus dans plus des années 50 que tout ça s'était énormément permis par, comme je disais tout à l'heure, une masse critique de gens avertis et de gens qui venaient apporter leur part à même déplacer à une nouvelle, plus ou moins une nouvelle perception de l'art.
Autrement dit, présentement, je voudrais dire que le Québec vit un isolationnisme au niveau culturel.
Ben oui, évidemment.
Et subit donc.
Oui, comme je dis, c'est évident que malheureusement, tu vois, si on regarde ce qui s'est passé au Québec depuis 6 ans à peu près, les deux choses qui ont le plus perdu leur attrait, c'est la culture, dans un sens de potentialité de développement et d'ouverture, et le tourisme. On a de moins en moins de gens qui viennent au Québec nous voir, comprendre, de voir notre différence, de voir qu'est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on est en Amérique québécoise. Et qu'en même temps, notre culture, elle est comme un peu précise.
Mais il n'y a pas une question. Moi, j'aurais une remarque à faire là-dessus. C'est peut-être dû au fait que durant la période de 1976, en tout cas, on a éliminé au Québec, tant au niveau politique qu'au niveau culturel qu'au niveau touristique, beaucoup la notion du folklore. Et dans ce sens-là, il n'y a peut-être pas des actions culturelles comme les tiennes, si on parle mort, qui ont fait ça. Avant, nous étions folkloriques, donc agréables.
Je dirais le contraire. Je dirais justement que l'action est venue plus vers le folklore. Tu comprends? Et une nouvelle, comme tu dis, si on prend l'idée, dans le concept de valorisation, tu comprends, d'une espèce d'un recul.
Comment vois-tu l'évolution dans ton œuvre? Parce qu'il y a eu évolution. Est-ce que c'est les mêmes problématiques qu'en 68? S'il y a transformation, dans quel sort, et de quel âge, et pourquoi?
Bon, ben, justement, si on prend la date repère de 68,
est-ce qu'elle est valable?
Ben, je crois que c'est sûrement une date valable dans le contexte de la peinture. Une peinture qui était justement assez dans l'art systémique, hein, comme des approches assez tout de même, assez structurées. Hein. Alors c'est sûr que disons, vers 68, on s'est un peu en collision avec le mouvement de mai 68, hein, et ce qui a comme été vraiment, on pourrait presque dire, de la fin, disons, on pourrait dire, de la période qui a commencé, avec l'expression d'abstinence, finalement.
Est-ce que ça s'applique dans ton cas?
Bien, ça s'applique dans mon cas, évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir de 68, le peintre, celui qui, disons, qui a pensé dans un concept de vraiment le métier de peintre, le langage, la couleur, le langage, la forme, comprends, c'est cette mise en question de cette position. Alors, ce que je trouve intéressant tout de même là-dedans, c'est que c'est assez politiquement intéressant dans le sens que l'interrogation et la mise en question est venue d'Europe. Et on voit très bien que c'était, tu sais, dans certains points de vue, l'Europe était vraiment très démunie, tu sais, et très dépassée par cette espèce d'ampleur qu'aurait pu prendre la peinture américaine. Alors c'est sûr que quand 68 et après 68, là, il y a eu cette interrogation. Et c'est là qu'on pourrait dire que l'Europe a pris un peu sa revanche, parce qu'il faut bien l'admettre, les Européens sont assez, assez bien placés pour poser des espèces d'embûches intellectuelles et des traquenards intellectuels, tu comprends? Alors, par exemple, tu vois, je te donnerais comme exemple, dans cette espèce d'une dialectique du sens critique, en fait, de la mise en question, par exemple. Tu sais, si je ferais, par exemple, le parallèle entre moi et Buren, tu vois. Mm-hmm. Alors, c'est évident que de ce point de vue, on pourra presque dire que Buren a retourné ma peinture contre moi, ou, tu sais, en fait, elle en a fait une espèce de négativité, tu comprends? On peut dire, bien, au lieu de voir ça comme justement comme une recherche strictement formelle, comme Albers ou comme d'autres, comme Mondrian, si tu veux, il y en a fait, tout le monde me dit, ben voilà un exemple d'un langage qui pourrait être poussé un peu plus dans certaines façons de radicalisation, ça devient vraiment une charge contre le geste qui se voudrait expressif, tu vois. Alors c'est sûr que moi, je revendiquais mon geste comme étant un geste vraiment expressif, une recherche effectivement d'adéquation d'émotion et d'intellect, si on peut dire, parce que ce que la peinture a toujours eu comme but, si on veut. Alors lui arrive justement dans l'espèce de d'attitude européenne, il retourne des propositions, et il s'est dit, ben oui, mais en fait, on pourra plutôt voir une recherche comme celle-là, comme c'est strictement une recherche purement formelle.
La
recherche qui est vraiment sur un langage, qui est vraiment l'espèce qui veut explorer en fait l'aspect réductif d'un langage, tu comprends? Et là, évidemment, c'est retourné contre ces prémices, disons, qui sont dirigées, dans mon cas, vers un but d'expression et d'un but justement d'adéquation entre justement en fait un processus de d'évolution, d'exploration systématique, et aussi toujours en fait, une structure qui se décante, qui s'explore, qui s'extrapole, etc. Et alors lui, il arrive et dit, un seul aspect, finalement, justement, l'aspect binaire, on peut dire, l'aspect de contraste, que l'art peut être amené à un principe de contraste. Alors là, comment toute la peinture est comme figée, dans son appareil formel. Et tout le problème que l'art peut servir d'expression, est venu tout à fait comme ridiculisé. En fait, s'est mis au banc, quoi, finalement.
Et c'est une question, justement, en 68, qui était à la Biennale de Venise. Oui. Est-ce que ça est apparu
dans
la participation de Venise?
Non, mais tout de suite après. Mais tout de suite après. Tu comprends? Évidemment, tout de suite après, là, on pouvait voir justement qu'il y avait cette espèce de visée européenne, peut-être dans toute l'essence française, on part, en fait, ils nous voyaient à venir en Amérique, ils voyaient d'un certain point de vue jusqu'à où, l'exploration strictement, moi je ne considère pas ça comme temps formel, mais une espèce d'évolution formelle tout de même dans les attitudes, comme tout à l'heure, des peintures, des expositions systémique, évidemment, on va parler de Jod, de Calandré, ou de ce qu'il voudra, évidemment, Albert, dans ce contexte-là. Alors, c'est évident qu'eux, ils avaient senti, effectivement, que, disons, que l'Amérique, c'était un peu ce qui s'est passé à partir de 1945, c'est un peu ce qui s'est passé, disons, dans le post-impressionnisme, puis qui aboutit, évidemment, à l'art abstrait dans les années 15. Une espèce d'évolution de 20 ans qui a donné une espèce d'ampleur à la peinture. Alors pour nous en Amérique, évidemment, on était sur une lancée avec une hypothèse, on pourrait dire, renouvelée des propositions de la peinture, qui était justement l'alternative à l'école de Paris. Voilà. Alors moi, je vois ça de même, tu vois. On a eu, disons, les grands mouvements, disons, qui ont été évidemment permis, et un épanouissement par Cézanne, et ça aboutit au suprématisme, à l'art abstrait, etc. Et puis là, mais évidemment, il y a encore une espèce de, un peu un ressac, Puis là, on est passé à l'école de Paris, qui était une espèce de, un retour en arrière, une consolidation, Puis encore une fois, si on peut dire, c'était encore la revanche de la France, qui était bien placée, tandis qu'au contraire, le phénomène de l'art abstrait, ça avait été une espèce de, une production qui avait été permise par toutes sortes de lancées, qui est autant de l'Allemagne, de l'Italie, de la Russie, tu comprends? C'était vraiment une espèce de concerté, tu comprends? Mm-hmm. Qui poussait justement à la conclusion des expériences, en fait, de l'impressionnisme, et surtout du post-impressionnisme. Alors, comme je dis, pour moi, je vois ça de même encore des grandes périodes, tu vois? Donc, à partir de, évidemment, la grande chose de New York, c'est qu'ils ont senti que les peintres américains pouvaient s'en sortir pendant la guerre et après, tout après la guerre. Ils sont arrivés justement avec une mise en question, on prend, de l'école de Paris. Et là, bien justement, le retour des choses un peu, mais là, après que ces choses-là s'étaient dites, à partir de 45 justement à 65, en gros, une vingtaine d'années, 20, 70, on parle 68. Mais là, justement, c'était la France, encore une fois, qui est revenue, on prend, un peu comme ce que surréaliste avait pu faire, ce que Dada avait pu faire, d'un point de vue, la négativité, la remise en question de toute, en fait, toute potentialité, tu sais, de l'art de se fonder comme une démarche humaniste. Qui prétend déterminer un contenu, c'est une espèce d'une exploration de contenu, si on peut dire.
Mais prétendrais-tu, on dit que si on parle de 68, que la force vive de ce moment-là, ce serait l'Europe?
Ah oui, légèrement, oui.
De quelle façon cela, est-ce que cela a eu une influence sur ta production?
Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, au tout début, pour moi, cette influence-là, justement, si je pourrais dire, c'était un peu une influence dans le sens que, dans des situations comme ça, tu comprends que toujours, il y a une deux possibilités. Hein? Je te joins à la mise en question critique, mm-hmm. tu comprends? Ou bien donc, tu continues à faire ton affaire. Et... Tu comprends? Dans mon cas, c'était la latence. C'était une période de latence. C'était une période, justement, qui m'a servi, tu comprends, à ce sens, à dire, ben, la peinture, OK, c'est peut-être plus important, tu comprends? On a vu même les événements ici au Québec. Là, ça s'est poursuivi ici au Québec, ce questionnement-là, tu comprends? Alors, on était un peu sur la défensive de prétendre qu'on pouvait poursuivre une recherche, évidemment, picturale. Tu vois? Mais là, justement, on n'était plus, disons, directement concerné.
Est-ce que l'article que tu avais publié dans la presse, dans la revue de fin d'année sur l'article du Yiking, est-ce que c'était une espèce de geste en réaction pour, en réaction contre, interrogation. Là, on était quand même en fin 68.
C'est en 70, oui. Mais justement, ça, c'était essentiellement comme... c'était un canular, tu comprends? Mm-hmm. Qui posait justement qu'à partir où on n'est plus justement dans une stratégie, en fait, de l'artiste créateur qui s'imagine qu'il veut créer des œuvres qui le situent lui existentiellement, comprends? Donc, on en arrive justement à un art de programme, comprends? Donc, on est dans une programmation, comprends? Donc, je disais, en fait, c'est ça qui était le joke, tu comprends? Un art pour tous, comprends? Qui finalement, on va explorer, en fait, que strictement, en fait, n'importe qui peut explorer des permutations, comprends? Et là, on dit, maintenant, l'artiste est tellement désinvesti dans son geste créateur, comprends? Qu'il peut publier un an d'avance ce qu'il va faire. C'est une espèce de... plus ou moins, en fait, une notion de l'académisme, aussi une notion d'un art qui serait téléguidé. En fait, la société, en fait, en a assez d'un art, effectivement, un art vécu, on peut dire. D'un certain point de vue, disons, avec une certaine pointe d'ironie, c'était peut-être un geste un peu à la Burenne, tu comprends, mais je veux dire, plutôt un geste plutôt conceptuel, si on peut dire, tu comprends. Mais là, c'était, disons, pour moi, une espèce de... C'était une farce, quoi, disons, dans ce sens, mais en posant, justement, où en était le constat de la société, en fait. Où est-ce qu'on voulait, finalement, nous situer l'artiste créateur, vraiment dans un appareil qui était beaucoup plus critique, si on peut dire, tu comprends, et où vraiment... On en avait assez de suivre un artiste dans son exploration et pouvoir, mais concept de maturation, etc. Tu vois? Donc, pour nous, évidemment, ça nous a tout de même permis, dans une certaine mesure, de travailler un peu en sourdine. Tu vois? Moi, par exemple, j'ai cessé d'exposer à Toronto. J'ai pratiquement cessé d'exposer à Montréal.
Alors, quelle expo tu as eu durant cette période-là?
J'en ai eu très très peu. J'ai fait une exposition, je pense, en...
J'ai eu 69 chez
Sherbrooke. Oui, 69, j'ai fait une exposition chez Waddington. Après ça, je n'ai pas exposé en 70, je crois, ou 71. Mm-hmm. Après ça, je n'ai pas exposé jusqu'en 76 chez Yajima.
Vous disiez que l'effet rétro, feedback européen, a duré jusqu'à presque en 76.
Ah, ouais. Pour moi, c'était jusqu'en 76.
Donc,
et là, j'en ai profité justement pour faire, on pourrait dire, une espèce de recensement, comprends, des hypothèses que j'avais déjà travaillées, de regarder les hypothèses, d'essayer de pousser plus loin certaines hypothèses que j'avais déjà plus ou moins travaillées dans les années 50, au début des années 60.
Parles-tu des tableaux en damier?
Oui, tableaux en damier. C'est toute une recherche, tu comprends, qui serait beaucoup plus expérimental de certains points de vue que d'une recherche, comme je dirais, vraiment expressive, tu vois. Mm-hmm. Il faut dire aussi que pour moi, historiquement, le temps que ça a pu prendre pour faire la rétrospective, l'introspective en soi, c'est de revenir sur...
Et la rétrospective était en...
Ça sortait en 76.
76. Mm-hmm.
Alors, c'est sûr que de certains points de vue, ça aussi favorisait, mais disons que c'était plus ou moins vers la fin de cette espèce de remise en question de différents systèmes d'écriture, des différents systèmes de production picturale. Alors, c'est sûr que, disons, que pour moi, là, il s'est commencé, disons, en 1975, un nouveau départ.
Mais quand je parlais de l'exposition chez Sherbrooke, monsieur, je parlais des tableaux au bord d'Élargie, est-ce que ça est un dernier geste d'une série?
Oui, absolument.
Parce que je maintiens une notion d'environnement dans ce tableau-là. Mais c'était le dernier geste d'une série ou le début?
Non, c'est le dernier geste.
C'est le dernier geste d'une série, ça.
Oui, parce que tout ça, c'était ce geste, c'était le tableau qui est ici, tu comprends l'idée. Autrement, c'était vraiment, du plan formel, de pousser à sa conclusion, on peut dire, le concept de la répétition, où tu répètes la même couleur deux fois. Alors là, justement, la même couleur est dans sa réitération, comprends? Elle est comme un écho d'elle-même, c'est une espèce de réverbération. Et donc, le phénomène de l'équilibre gauche-droite, de l'équilibre, on pourrait dire, de yin-yang, négatif-positif, et puis l'espèce de potentialité de synthèse, de négatif-positif. Et aussi, justement, dans certain point de vue, où la couleur, si on veut, change de sa fonction, si on pourrait dire, sérielle, on va dire rythmique, pour venir vraiment jouer en fonction de masse. C'est-à-dire, la couleur est vraiment posée comme presque un quantificateur en ce sens-là. Mm-hmm. C'est vraiment un élément très déterminant de par sa quantité.
Ça, c'était découvert quelle année ou à mi?
Pour moi, c'était, si on peut dire, juste après la Biennale de Venise, c'est 68-69, tu vois. Et c'est sûr que, disons, en 69, avec, disons, ce tournant que pouvait prendre la peinture, c'est sûr que si on n'avait pas eu cette espèce de climat, tu comprends, j'aurais peut-être continué là-dedans. Mais là, au lieu de ça, évidemment, j'ai arrêté encore un bout de temps à peindre. Puis après ça, bien évidemment, c'est là que j'ai commencé à revoir les propositions de 56. Dans ce cas-là, je suis revenu au noir et blanc. Tu comprends?
Les 69,
c'est
ça.
C'est ça. Alors, c'est comme je te dis, là, c'était vraiment le... pour moi, ça a correspondu justement, comme je dis tout à l'heure, à une espèce de... un retour comme à des problèmes de composition, des problèmes de dessin. Alors, évidemment, ça s'est aussi caractérisé par le réinvestissement de la diagonale. Donc,
qui apparaît?
Ça apparaît, justement, ça sort des noirs et blancs dans les damiers. Dans les damiers, puis éventuellement, ça va dans les recherches, les tableaux en triangle, puis l'idée de revitaliser la notion de haut et de bas, les triangles sur la pointe et sur la base, en fait.
C'était quelle année, ça? C'était présenté à l'exposition? C'était présenté au Centre culturel, ça a fallu?
Ça, c'est plus loin, ça. C'est en 1974. En 1974, là, j'ai fait un très grand changement dans ma production. En 1974, ce qui a éventuellement permis ce que j'ai fait en 1975, c'est que là, j'ai pour la première fois, mais ça s'est arrêté en 1973, que j'avais abandonné la notion de série. Alors, jusqu'en 1973, la production avait toujours été série. Dans la proposition géométrique. Ouais. Alors là, en 73, c'est là que j'ai fait le grand triptyque qui est à Toronto. Alors, c'est triangle bleu. Ouais. En fait, trois triangles bleus avec trois couleurs.
les tableaux qui ferment le catalogue.
C'est comme ça que j'ai choisi finalement de finalement dans mon exposition de l'Académie nationale d'arrêter en 73 la recherche, parce qu'à partir de 73, tu vois, là, la recherche s'oriente justement vers un travail qui commence à poser le problème, de ce que j'appelais ma couleur symbolique, une couleur qui est en position privilégiée. On peut bien sûr comparer à dire une peinture qui revient à un concept d'hiérarchisation.
Vous parlez de notion de fond-forme ou...
Non, c'est simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est que la couleur n'est pas dans son questionnement dialectique. On va dire que la couleur ne se rencontre pas dans la notion de position. La même couleur ne se retrouve pas dans une autre position. Et de toute façon, on peut toujours parler dans ce contexte-là, dans une peinture qui est dans ce sens sériel de la couleur, que la couleur ne peut que se percevoir que dans sa structure, dans sa double position. Donc, la couleur, comme ici, tu vois, le violet, bien, est au début et au centre.
Ce tableau-là, de quelle année?
Ça, c'est 68. C'était au début et au centre. Alors, c'est évident qu'on ne peut pas parler du violet comme, en fait, dans une connotation, si on pourrait dire, référentielle, symbolique. Tu vois? Il n'y a pas ce... C'est une sorte de garantie, tu vois, que la peinture, la couleur est comme référentielle à sa propre énonciation. Tu vois? Elle est dans un système fermé, tu vois. Donc, ce système fermé-là, justement, est le système de la binarité.
Okay. Alors, c'est évident que... tout ça, c'est venu à partir de Buren.
Ah non, c'est pas venu à partir de Buren.
C'est parce qu'au début, tu disais qu'il y a eu une réflexion.
Non, je dis tout simplement qu'au contraire, tu vois.
Accéléré par le mouvement.
Non, je dis tout simplement qu'à partir de 68, tu vois, c'est faut comprendre, c'est que à partir de 68, tu vois, un phénomène comme le phénomène Buren, qui est un phénomène qui est un phénomène critique sur la peinture. Tu vois. Alors, on rentre dans une autre ère. Je veux dire, c'est comme on pourrait dire, le nationalisme au Québec, tu vois, avant le Parti québécois au pouvoir, c'est quelque chose qui est là, qui est dynamique, qui est vivant, mais tu comprends, c'est une force qui a toujours plus ou moins existé au Québec. Mais là, quand on arrive avec le Parti québécois au pouvoir, mais là, c'est vraiment, c'est critique. On va voir vraiment ce qui va se produire, on est mis en situation, tu comprends? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de 1968, la peinture est mise en situation, et là, justement, les propositions que nous, on travaille d'un certain point de vue évolutive, et ça se produit par une espèce de mûrissement intérieur, etc., tu comprends? Mais là, quelqu'un arrive, puis se sert de tes mêmes propositions que toi, tu te sers dans ton langage, mais dans un certain niveau de ton langage, tu comprends? Je veux dire, par exemple, théoriquement parlant, les propositions de Buren, ça pouvait présenter certaines propositions que j'aurais pu avoir pendant 64 ou 65, tu comprends? Mais c'est évident que c'est tellement, dans mon travail, c'est tellement en progression, tout ça, que... il n'y a pas tellement de différence entre 64, 65 et 68, finalement. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que finalement, avec cette... pour bien comprendre, ce n'est pas une question de m'expliquer, tu sais, mais c'est sûr que quand, je ne sais pas, quand si tu travailles avec des bandes verticales et que quelqu'un arrive avec une argumentation et un système philosophique, etc., extrêmement négatif, il se sert d'une certaine un aspect de ton écriture pour montrer que la peinture c'est devenu comme une espèce de geste redondant, tu comprends, et que ce geste-là finalement ne fait que de déterminer, tu comprends, qu'une espèce de cul-de-sac, tu comprends, de la peinture. Alors c'est évident que je ne dirais pas que je me sentais visé directement, tu comprends, par le travail de Buren, tu comprends, mais c'est évident que d'un certain point de vue critique, c'est impossible de faire semblant que les gens ne voient pas une espèce de... si je veux dire, par exemple, Robillard, hein? Mais c'est évident que pour lui, il pouvait voir que ce genre de peinture, même toute cette attitude picturale, était mise en question. Tu comprends? Mais c'est normal qu'il pose la question, comment tu te sens quand tu es mis en question? Ouais. Tu es mis en question, tu comprends? Ben, il l'a fait dans une article, je pense, l'exposition qu'il avait fait, je pense, à Sainte-Hélène. Je pense qu'il a commencé à poser des questions un peu comme ça, un peu après, je pense.
L'exposition, tu dirais, à l'occasion.
L'exposition, il a fait l'année après de 1938, je pense.
Mais il l'a fait en 1970, Terre des Hommes, là.
C'est ça. Je pense que c'est là qu'il en revient, justement, à dire, bien oui, mais encore Molinari avec les bandes, tu comprends. Bien, évidemment, si on a pris une position critique, tu comprends, sur le plan d'une certaine forme d'écriture, et même l'écriture picturale est mise en question, mais c'est normal qu'une critique dise, mais est-ce que la Mauricénie va poursuivre encore des recherches qui sont, en fait, qui sont plus ou moins mises au rencard, quoi, finalement. Quoi. Alors, comme je dis, c'est que pour moi, donc, toute la peinture, évidemment, a été dans une espèce de ralentissement productif. Il faut bien comprendre aussi que dans les années 70, on a vu la mort de Rothko, de Newman, de Reinhardt, tu comprends, de Reinhardt à 66, évidemment, tu vois. Alors, tout de suite, c'est des gros morceaux qui tombent, et puis, c'est évident, comme on dit, il y a des grands changements.
T'es-tu trouvé un état de défense?
Latence. Tu comprends l'idée? Alors, c'est sûr que dans ce sens-là, tu vois, l'idée, pour moi, c'était, disons, du plan existentiel, ça correspond aussi à l'enseignement que je commence à faire. Et puis, même l'enseignement était difficile à faire, tu comprends? Parce qu'encore une fois, tu sais, les cowards, et puis des histoires comme ça, mais il y avait aussi, même à l'intérieur de l'université, on prend même une espèce de remise en question, même, on prend des propositions strictement de la peinture comme langage viable, tu vois. Alors, comme tu peux voir, on en arrive à une espèce de, évidemment, une espèce d'épuisement de cette fonction critique, tu vois. Et t'en arrives même, même strictement parlant, à l'exposition de Buren chez France Morin, c'est une exposition extrêmement, sérieuse et non critique. Et finalement,
comment dire, Buren est arrivé
à lui-même, a été récupéré, quoi, fait, disons, par le système où sa fonction critique s'est épuisée, tu vois. Et là, il fait une œuvre, évidemment, qui est basée sur le centre focal, etc.
Donc, dans tout ce qui s'est produit en 68, surtout ce qui t'a touché dans ton cas, ce serait Buren.
Ben, ça serait,
c'est le personnage qui catalyse.
Oui, c'est ça. Et ça serait justement, je crois personnellement, que le discours qu'il faisait, sur la peinture comme moyen expressif, ben, c'est sûr que c'était vraiment une mise en accusation de la peinture. Mm. C'est évident que Hacker, c'est l'allemand, là, celui qui a des process art, là. C'est sûr que c'est, disons, que d'un certain point de vue, c'était, c'est plutôt une espèce de conscience écologique, est-ce que tu voudras, c'est une espèce de déplacement du contenu, hein. Mm-hmm. Et d'un certain point de vue, on reste dans un art de contenu, un art de, vraiment de concertation, tu comprends, ça pouvait avoir ça restait d'une espèce d'humanisme, hein. Et alors, c'est sûr, encore une fois, c'était une alternative, tu vois, à, on pourrait dire, aux données formelles. Tu comprends? Parce que moi, ce que je vois ça, c'est que si tu regardes, comme je disais tout à l'heure, si tu regardes l'art d'un point de vue structuraliste, ben, on remonte nécessairement à l'impressionnisme, puis on voit ça comme un progrès, mais tout de même une progression, un système qui se questionne lui-même et qui apporte toujours des nouvelles hypothèses, mais ces hypothèses-là sont
plus à l'intérieur du système,
évidemment, que
fermé.
C'est un système fermé, évidemment. Alors, c'est sûr que la peinture qui aboutit à la couleur pure, qui aboutit à la forme pure, mais c'était toutes des choses qui étaient déjà possibles et posables dans les concepts même de Chevreul, comme la cinématique, etc. Alors, c'est sûr que tout ça, ça pose, une incessante notion de d'évolution, tu vois. Alors, par exemple, chose Kablik, qui a été faite sur le livre, sur l'évolution en art, une femme, c'est Susie Kablik, qui fait ce livre-là, elle voit justement une évolution, puis elle se base sur les stages de Piaget, tu vois. Alors, pour expliquer justement cette évolution. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'admettent pas du tout cette notion d'évolution en art, tu comprends? Mais c'est évident que dans un certain sens, si on regarde l'aspect strictement formel, c'est difficile de ne pas voir une progression.
Et quand est-ce que, finalement, tu t'es remis sur tes pieds dans cette interrogation-là, comme tu disais, en 73?
Ben oui, c'est en 73, quand justement, disons, de certains points de vue, moi-même, j'ai abandonné une espèce de une sécurité essentiellement formelle comprends, qui assurait, comme je disais tout à l'heure, un art non référentiel, en assumant de travailler la couleur d'un plan beaucoup plus symbolique, donc la couleur qui joue par elle-même. Hein. Et donc, si elle est là toute seule dans le tableau, il est bien évident qu'on peut toujours trouver sa référence ou sa résonance en dehors du tableau. Donc, je fais ça la fonction plutôt symbolique de la couleur. Mm-hmm. La couleur est là pour... même elle, dans le système du tableau, elle est plus ou moins hiérarchisée, elle a une fonction. Hein, mais on ne la retrouve pas à l'intérieur du système du tableau. Elle n'est pas en miroir.
Parfait. On dit qu'elle est référentielle à quelque chose d'extérieur, ben, à un univers extérieur.
On peut toujours la chercher à lui poser la question. Qu'est-ce qu'elle peut connoter en dehors du tableau, par association. Mm-hmm. C'est sûr que d'un point de vue strictement logique, c'est pas parce qu'une couleur est répétée dans un tableau qu'elle n'est pas référentielle non plus. Il y a des gens qui m'ont dit « j'aime ce verre-là parce que ceci ou ceci, c'est cela », tu comprends? Et puis, je peux lui dire « oui, mais avant tout, ce verre-là est vraiment dans le tableau, dans des états de vibration, de mouvement, il crée un continuum spatial en soi dans le tableau. » Tandis qu'on s'y est là tout seul, le paradis, la couleur est comme focalisée sur cette présence. Alors, c'est ça que c'est donc, pour moi, c'est sûr, c'est qu'est-ce qui m'a amené à un questionnement bien différent sur la couleur. Et c'est là, comme je dis, c'est grâce au 75 que j'ai commencé à travailler sur ce que j'ai appelé la quasi-verticale. Quoi. Et c'est là que j'ai découvert justement qu'au fond, la diagonale que j'avais travaillée, c'était en réalité quelque chose qui amenait à poser un déséquilibre sur la nature de l'axialité. Alors si je synthétisais le déséquilibre sur la fonction d'axialité, j'aurais dit, en introduisant une certaine diagonale dans l'axe vertical, si on prend, j'appelle la quasi-verticale. Alors là, évidemment, en même temps, si on se met à faire pencher le plan, mais nécessairement qu'on crée un déséquilibre haut et bas. Alors c'est sûr que toute, disons, ma recherche entre 69 et 75 avait été de poser justement une notion de haut et de bas. Alors, pour moi, justement, comme je le dirais, à partir de, comme je disais tout à l'heure, de cette espèce de position critique que la peinture avait, qu'on faisait sur la peinture, moi je m'en suis servi pour revenir explorer davantage un fondement de la peinture qui avait été plus ou moins exclue dans ma première recherche à partir des années 59, où j'avais exclu une notion de horizontalité, une notion de haut et de bas, donc la notion de, justement, de, on pourrait dire, une espèce de all-over, on dit dans ce sens que les tableaux à bande verticale qui sont all-over, dans le sens qu'ils peuvent continuer dans une direction.
Est-ce que les tableaux étaient référentiels à une autre peinture à ce moment-là? Avec ses verticales, ses hauts et ses bas. À quoi se rattachait-il?
C'est référentiel à une autre peinture. On ne peut pas dire que c'est référentiel à une autre peinture, tu comprends? Mais c'est évident que d'un certain point de vue, ça fait une certaine référence à toute la peinture qui s'est posé le problème du haut et du bas. Hein? Donc, c'est référentiel à toute la peinture qui ne posait pas le problème de la verticalité.
Quelle peinture? Donnerais-tu un exemple?
Autant Albertz, Mondrian, on prend. Mais comme je dis, toute peinture qui a posé la ligne horizontale, on prend Rothko, Reinhardt, n'importe quoi, on prend. C'est sûr que, de ce point de vue, comme je dis, d'avoir choisi un peu comme exploration la couleur, la notion du all-over, on prend. C'est évident que c'était ça le grand problème qui posait justement que la. Que ce concept même de rayure, hein, c'était en soi un acte qui était, disons, presque dangereux, hein, parce que les gens avaient de la difficulté à poser ça comme étant un problème de forme justifiable. Tu comprends? Travailler avec des rayures, on n'a pas l'impression qu'on travaille avec des formes picturales. Hein? C'est des formes décoratives, c'est des formes qui sont connotées en dehors du langage de la peinture. Quoi. Alors, c'est évident que moi, ce que j'ai fait, on pourrait dire, c'est un peu l'envers de ce que Buren a fait plus tard. Hein? J'ai investi émotivement, hein? Et créé des significations à partir de quelque chose qui était connoté, hein? comme étant non pas ne pardonnant pas au langage de la peinture, hein, des rayures. Hein, parce que justement, c'était des œuvres, des formes trop ouvertes, comprends? Et ils ont été trop utilisés justement par des systèmes décoratifs, tu vois.
Mm-hmm. Mais avec les quantificateurs qui suivent, est-ce que c'est un retour à 68 ou c'est tout à fait autre chose?
De cette époque.
Parce que les quantificateurs datent quand même de 77,
c'est pas 77, oui.
Et comment ils se placent? C'est-à-dire, après toute cette période d'interrogation, les damiers, les diagonales.
Oui, c'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure. Ça se place justement, c'est que, tu vois, comme je disais tout à l'heure, en déplaçant, disons, en créant une critique, une transformation de la notion d'axialité. Alors, c'est sûr que dans mes tableaux d'axialité, hein, donc des tableaux à structure verticale, c'était des structures déductives. Hein, on pensait que c'était en relation avec le cadre. Mm-hmm. Tu comprends? Alors, dès qu'on jette par terre l'axe, là, il n'y a plus vraiment de relation avec le cadre. Donc, là, je m'en dis, c'est que là, je travaille à la fois dans une structure qui n'est plus déductive, voilà, et évidemment qui n'est plus axiale. Hein? Et en plus de ça, ce qui n'est plus sériel. Hein? Alors là, les premiers tableaux de 75, justement, qui ont amené vers les quantificateurs, ont été des tableaux à trois couleurs. Certainement trois couleurs. Hein? Donc, de cet point de vue, ça reste...
Trois bandes.
Trois bandes, mais trois bandes avec non verticales. Des bandes, comme je dis, des quasi-verticales, avec des trapèzes. Hein? Des trapèzes de cette façon. Donc, nécessairement, où, disons, chacun avait une espèce d'identité. Hein? Et donc, finalement, qu'on peut dire justement qu'il n'y avait pas deux qui avaient vraiment la même configuration. Hein? Donc, c'était justement un équilibre de quantité, hein? De champ, hein? des trois champs. Hein? Alors, au lieu d'avoir un champ unifié, on avait trois champs. Et alors, okay. Évidemment, c'est ça, oui, c'est sûr. Alors, évidemment, tu vois, c'est des propositions, si on veut, où on pourrait dire que je tendais à une certaine notion d'équilibre chromatique, hein, mais qui joue aussi énormément sur certaines formes de disjonction du chromatisme, qui tendait justement à une certaine symbolique de la couleur. Hein. En fait, c'est pour faire jouer comme trois moments colorés qui ne sont pas nécessairement... des réflexions non connotées et non harmoniques aussi. En fait, une remise en question des structures harmoniques. Tu vois. Et puis, évidemment, dans une recherche, justement, qui s'était poursuivie dans toutes les années 70, de couleurs, vraiment des tons assez rompus. Donc, vraiment essayer de trouver des combinatoires de couleurs qui ne sont pas connues. Des harmoniques pas connues, moins connues. Donc, alors, c'est, comme je l'ai dit, c'est que, éventuellement, en travaillant là-dessus, c'est là que j'ai de plus en plus entrevu la possibilité des quantificateurs, tu vois, qui, eux, fonctionnent justement, qui réintroduisent qu'ils introduisent une nouvelle notion de durée, tu comprends, en faisant énormément diminuer les seuils de contraste. Tu comprends? Autrement dit, les quantificateurs reviennent donner une espèce de notion d'all-over, comprends, en faisant une remise en question, justement, de la notion de contraste. Hein. Autrement dit, c'est que la couleur, en fait, la dynamique même de la couleur, ça devient une fonction même de l'intensité de la perception. Autrement dit, chaque percepteur, de par l'intensité de sa perception, détermine l'intensité de la couleur. Et il détermine finalement cette notion de la disjonction, de la différence. Le tableau se propose comme étant peu différencié. Et plus tu t'investis, plus tu le différencies. Autrement dit, plus tu viens comme charger, tu comprends, une espèce de contenu émotif, mais justement, c'est ta propre, c'est ton émotion d'investissement. Alors, comme tu peux voir, c'est que, à la limite, tu vois, c'est sûr que c'était un ultime questionnement de la notion de dessin. En allant justement à un minimum de disjonction, de différence dans les formes. Tu vois.
Oui, tu dis que finalement les quantificateurs font un peu comme les tableaux de 68.
Oui, oui, c'est ça.
Dans et, mais par contre, où le spectateur a un rôle, et là, de réintégrer, on pourrait dire, mai 68, tu dis, spectateur, ben, vous voulez que vous chiolez pour vous intégrer, on va vous intégrer, mais ce ne sera pas un vieux passé.
C'est ça, exactement.
C'est ça. C'est, le défi est plus lancé, plus fort. Le tableau est moins autonome à ce moment-là.
Ah oui, absolument. L'enseignement de la dissociation, il répond beaucoup moins sur une structure autonome, parce qu'il y a beaucoup moins d'équilibre structurel dans le tableau, tu vois. Et le tableau est ouvert totalement, moi, comme je disais tout à l'heure, un peu comme la musique, dans un certain sens, c'est stochastique, tu vois. C'est ouvert à l'interprétation, c'est ouvert à la durée. Pendant combien de temps tu vas le regarder, s'il est très peu dynamique, on peut dire, au point de vue de... C'est aléatoire, tu vois. Comme une musique aléatoire, tu vois.
Mais le tableau, surtout quand on les connaît, le tableau n'est pas fait comme tel, charmeur, attirant.
Mais non, c'est ça, c'est sûr. Alors, c'est évident que dans ce contexte-là, comme on dit, c'est un retournement total des choses, tu vois. Mais comme tu dis, finalement, c'est évident que ça répond encore à une exigence de revenir à poser une notion du all-over. Mais là, c'est un all-over qui demande à être ouvert, ça veut dire, par le spectateur, par son investissement. Alors, c'est comme tu vois, c'est que... Alors, pour moi, toute proportion gardée, c'est sûr que je peux regarder en arrière, tu vois, puis me dire un peu, on pourrait dire, un peu ce qu'aurait pu se dire Mondrian, tu veux dire, le surréalisme, le dada, ce que tu voudras, tu comprends, l'école de Paris, ça ne lui a pas tellement ennuyé, parce que ça lui a permis de faire dans les années 30, dans les années 40, des chefs-d'œuvre, mais des chefs-d'œuvre qui étaient comme anachroniques. Quand il les faisait, personne ne s'intéressait. Tu comprends? Mais lui, je faisais sa peinture. Tu comprends? Mais dans le calme absolu, parce que sa peinture n'était pas vraiment reconnue, n'était pas investie dans la structure de la société dans ce temps-là. Parce que là, c'était justement un questionnement psychologique qui était déterminé. Tu vois?
Là, j'aurais une question un peu étrange. L'enquête débute, disons, 68. On est assis ici. Le tableau qui est sur le mur, le seul qui est montré, c'est un 68. Ça veut dire quoi, ça?
Oh, ben ça, c'est un accident.
C'est un accident pur et simple.
Paramètre à 80.
Non, mais c'est un accident pur et simple. Il est quand même là.
C'est pour les élèves, leur remontrer. C'est pour les élèves, leur remontrer.
Ah, OK. Mais pourquoi tu leur as montré ce tableau-là aux élèves?
Ben, parce que, justement, c'est que, d'un certain point de vue formel, pour moi, disons, la notion du bicériel, tu vois, c'est une potentialité, tu vois, d'un système de perspective. Dans le sens, tu vois, qu'il est bien évident que dans le bicériel, tu vois, c'est sûr que la notion de centre est très importante, tu comprends? Mais qu'en même temps, c'est que ça détermine ce que j'appelle, tu vois, un espace, tu comprends, qui est toujours en se complexifiant. Alors, quand tu veux démontrer, justement, que l'espace, tu comprends, est un facteur de la complexité du système, donc un facteur de la simultanéité, tu comprends, d'événements. Hein? Alors, c'est évident que dans le bicériel, tu vois, l'opérateur, tu comprends, continuellement en mettant en relation.
L'opérateur, c'est l'artiste.
Non, c'est celui qui regarde.
C'est le regardant.
Celui qui regarde, tu comprends. Celui qui détermine, tu vois, c'est que, il faut bien se dire que, moi, j'ai posé, tu comprends, que dans la différence de la perspective classique, tu comprends, qui détermine qu'il y a un espace dans le tableau, le système de perspective que je propose pose qu'il n'y a pas de système dans le tableau, tu comprends, que l'espace est un facteur d'opération. Autrement dit, l'espace se produit que de par l'opération, dans l'opérateur, dans la conscience, dans la trace némique de celui qui regarde.
Mais, comme tu as dit, c'est un 68 qui a servi d'exemple. Je veux dire que c'est les 68 qui sont les plus, ce tableau-là étant un exemple, les 68 sont les plus signifiants, si on veut comprendre.
De la notion d'espace telle que je l'ai élaborée, c'est sûr, dans l'espace que j'appelle l'espace. En fait, la notion où j'essaie de déterminer la réalité de l'espace fictif, qui, on pourra plutôt dire, l'espace opératoire, effectivement. Je dis fictif dans le sens que ça demeure extrêmement ouvert
comprends, dans, en fait, dans l'interprétation de l'expérience du percepteur. Donc, ça reste nécessairement dans la mesure de comment quelqu'un, disons, traite les traces mnémiques. Alors, par exemple, dans mon exposition chez Yajima l'année passée, c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens, tu vois, encore une fois, sur un travail extrêmement extrême sur la notion de contraste chromatique, tu vois, que je travaillais énormément sur la notion de mémoire courte.
Autrement dit, par mémoire courte.
Mais ça veut dire justement de te souvenir comme en musique, te souvenir d'une note, d'un son et de le mettre avec un autre son. Autrement dit, écouter la musique, c'est ça qui est la difficulté d'écouter la musique, c'est de se souvenir de ce que tu viens d'entendre et de mettre en relation ce que tu entends après. Donc, de te souvenir de l'expérience où tu détermines l'espèce de la présence d'une couleur, et là, tout d'un coup, tu te rends compte que l'autre couleur que tu fixes, que tu sens, n'est pas exactement la même, mais sa différence ne peut être que sentie et perçue, c'est que si tu te souviens de l'autre expérience de la couleur. Alors, comme tu peux voir, c'est que généralement, dans l'expérience picturale, il y a une telle différence entre les différentes parties du tableau, que l'expérience mnémique, tu comprends, est comme recoupée par un signe. Tu comprends? De regarder quelque chose, que ce soit une bande rouge, c'est une bande rouge, c'est une pomme, c'est une diagonale, c'est un triangle, c'est n'importe quoi, mais c'est quelque chose que tu as vu. Donc, tu te souviens de ce que tu as vu, mais tu te souviens énormément de part comme un signe qui vient de recouper. Tandis que quand tu as construit une couleur, une expérience d'une couleur, et que tu te souviens de l'effet de cette expérience-là, en regardant, en confrontant une autre couleur, c'est beaucoup plus difficile. Parce que, justement, il y a tellement peu de différence entre les couleurs. Et que cette couleur-là, justement, est une couleur de champ. Elle n'est pas une couleur qui vient se connoter. Alors, c'est évident que dans ce sens-là, on peut dire que ça détermine effectivement la grande différence avec le monochrome. Parce que le monochrome, justement, te dit tout simplement qu'au fond, il n'y a pas tellement de problème de traces mnémiques. Tu viens qu'on est un problème de saturation. Tu sais, c'est comme une réverbération d'un son, un écho. Mais dans un écho, c'est le même qui chante, je veux dire. Tandis que là, ici, justement, il reste à déterminer l'existence d'une identité. Mais cette identité-là est extrêmement aléatoire, extrêmement peu déterminée par une espèce de forme, hein, parce que la forme même est très instable. Ah, donc, comme je dis, c'est que c'est évident, comme tu peux voir, que pour moi, de par la conception que j'ai élaboré de l'espace, ça a toujours été élaboré à partir de la notion de durée, donc la notion de mémoire et la notion d'opération, de confrontation, d'emboîtement d'éléments qu'on met ensemble. Tu vois. Alors c'est évident que pour moi, l'espace se constitue que dès que trois couleurs se rencontrent. C'est une notion de triade.
Mais il y en avait deux seulement dans l'identificateur.
Oui. C'est sûr qu'il y en a deux, c'est évident. Mais dans ce sens-là, c'est que c'est évident que quand il y en a deux, il y en a juste deux. Je comprends, mais c'est sûr que d'une façon générale, la couleur se présente en triade. Dans le sens qu'elle se détermine. C'est qu'on dit deux dans un quantificateur, on dit toi aussi, parce que le quantificateur se dégage sur le mur. Il se dégage sur un fond, dans un certain point de vue. C'est sa définition de champ, tu vois. Alors, comme tu vois, rigoureusement parlé, il y a pratiquement toujours trois couleurs, tu vois.
Donc, pour toi, quand un tableau existe, tes tableaux existent dans la mesure où il y a l'intervention de trois éléments colorés.
Ça détermine un peu, mais ça détermine, c'est sûr qu'on fait on peut toujours pouvoir être tenté de faire un tableau monochrome. On ne travaillera pas sur trois couleurs, évidemment. Mais c'est sûr que c'est un point de vue général, on peut dire, tu comprends? C'est qu'une couleur se définit, justement, ce que j'appelle dans un intervalle coloré. C'est que, tu comprends, tu peux venir commencer à la cerner. Mais tu ne peux pas la cerner sans la mettre en relation avec les éléments qui la soutiennent. C'est un peu comme les problèmes des anthropologies, des cartes géographiques. Il est bien difficile d'imaginer un pays qui existe en soi. Il est toujours subordonné à d'autres pays qui l'entourent. C'est un peu une expérience. C'est un exemple un peu qu'on trouve dans l'anthropologie. Alors, c'est évident qu'une couleur, dans ce sens-là, tu vois, dans la centration, c'est qu'elle est mise en relation avec un ensemble d'autres couleurs autour. Mais là, justement, c'est combien de temps cette couleur-là peut exister dans la centration sans que les autres couleurs de paradis soient contaminées, vraiment. On passe aux autres couleurs. Voilà. Autrement dit, donc, ça détermine qu'il y a une espèce de notion même de durée, c'est comme dans la couleur, comme il y a une notion de durée dans la musique. Ça prend le sens, c'est qu'une couleur, c'est ce que j'ai appelé une découverte, tu comprends, que ça existe dans un intervalle. Tu comprends? Autrement dit, il y a un temps donné pendant lequel une couleur peut vraiment exister. Et que là, effectivement, tu dois passer.